Bonjour à tous.
Bonjour.
Je viens prendre le micro pour rendre témoignage de l'action miraculeuse de notre Dieu en moi. Vous savez que depuis septembre, je suis arrêté, donc suite à une sciatique importante. Depuis un mois, maintenant, je n'ai plus mal. Mais ça, c'est lié aux exercices que je fais en kiné et au traitement que j'avais. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que lors d'un rendez-vous chez un médecin, j'ai compris la nécessité de devoir maigrir pour mieux me soigner. Je l'ai fait. J'en ai parlé à Michel et à Michou. Je l'ai fait tous les soirs. J'ai changé complètement mon régime. J'ai appliqué ce que l'on appelle une monodiète, c'est-à-dire que je ne prenais qu'une seule soupe. Vous êtes tous témoins de ça, et un yaourt. Donc, qui a conduit à un amaigrissement important. Il y a quelques semaines...
Combien de kilos ?
Michel, j'ai perdu... Je vous le dis.
Oui.
Non.
Oui, oui, dis-le.
Non,
dis-le,
non,
dis-le,
non,
dis-le,
non,
oui,
mais je
ne
veux pas.
Dis-le.
Non.
Si.
20 kilos.
Bravo.
Ça, c'est magnifique.
J'avais un foie gras.
Vive Noël.
Point. Je passe à la ligne. J'avais un foie gras constaté par les sommités médicales. Et je me suis dit, à Noël, il faudrait que je m'en sépare. Mais bon... Très difficile de se séparer de son foie. Bon, il y a quelques semaines, je disais une crise de foie importante. Alors, manifestement, je n'ai pas bu d'alcool. Manifestement, je ne consommais plus de plats gras. Mais ça n'allait pas dans mon corps. J'ai passé deux jours terribles. Michel est venu me rendre visite dans ma chambre, a prié pour moi. Et grâce à Dieu... La dernière échographie du foie que j'ai passée, c'est-à-dire il y a quelques jours, elle démontre que la silhouette de mon foie est complètement et tout à fait normale et qu'il n'y a plus de graisse. Gloire. Merci Seigneur.
Amen.
Et bonne fête à vous.
Que Dieu te bénisse, Jean. Merci. À Dieu pour ce beau témoignage. Amen. Dieu est bon et c'est magnifique. Je pense que ça va encourager plusieurs de ceux qui sont sur Internet et qui nous écoutent. Moi-même, ça m'a encouragé et j'ai stoppé le fromage. Mais bon, tu vas l'écrire sur Internet, tu vas le mettre ? C'est bien. C'est bien. Moi, j'ai arrêté le fromage parce que c'est dû simplement au fait que moi, je mange trop. Hein. Mais il y a d'autres personnes. C'est une maladie comme une autre. Et nous pouvons prier et le Seigneur fait des miracles. Amen. Voilà, gloire à Dieu, c'est magnifique, c'est très encourageant, merci Jean. Il y a quelque temps, je vous ai parlé du pouvoir de s'emparer des esprits captifs. Vous vous rappelez de ça? Je vous ai dit, je vous en parlais vendredi, puis finalement, le Seigneur m'a conduit autrement, mais là, on va y revenir parce que c'est très important. Et je voulais garder ça pour la dernière prédication de l'année. Vous avez vu, vous avez aimé l'image clignotante. C'est un petit clin d'œil à un frère que j'aime beaucoup. Je suis sûr qu'il va se reconnaître. Il déteste les petits trucs clignotants. Un petit clin d'œil. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. On est tous contents. On a reçu des nouvelles d'un tas de gens qu'on n'avait pas revus depuis longtemps. On est très contents. On sait qu'ils nous écoutent sur Internet. Que Dieu vous bénisse. On est contents de pouvoir retrouver des gens comme ça. C'est magnifique. Que Dieu soit béni. On est très encouragés. Je voudrais lire avec vous Philippiens 4:7 pour commencer. Nicolas m'a dit qu'une de mes vieilles prédications sur Joseph lui avait fait beaucoup de bien ces derniers temps. C'est une vieille prédication qui date au moins 4 ans en arrière. Il a une mémoire, cet homme, dis donc. C'est formidable. Dieu le bénisse. Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Restez debout. On va lire encore un autre passage dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14. 2 Corinthiens 3, 14. Mais leur intelligence est devenue obstrue. En effet, jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture publique de l'Ancienne Alliance, le même voile demeure, il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît que dans le Christ. Maintenant, dans 4, 3, 4. Si cependant notre bonne nouvelle est encore voilée, elle l'est voilée pour ceux qui vont à leur perte, pour les gens sans foi, dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, de sorte qu'ils ne voient pas resplendir la bonne nouvelle de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. On va lire encore dans 10, 4, 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair, cependant elles ont le pouvoir du fait de Dieu de démolir des forteresses. Nous démolissons les raisonnements. Oh, oh, oh. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous nous emparons de toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance du Christ. Et encore un autre verset, chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, je crains que votre intelligence ne se pervertisse et ne s'égare de la simplicité, de la pureté à l'égard de Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a un mot qui est employé là dans les vieux textes grecs, c'est pneumata, qui est sous au pluriel là, et qui a été traduit par second, tantôt par entendement, tantôt par intelligence, tantôt par pensée. Et si on voulait être vraiment correct, les théologiens pointus disent le mieux serait d'écrire conseil de l'intelligence. Ils ont été obscurcis dans le conseil de leur intelligence. Et vous voyez, tous ces textes qui parlent de la pensée, de l'intelligence, de l'entendement. Parce qu'au fond, mes frères et sœurs, c'est vrai, l'intelligence est une faculté et le conseil, c'est l'action de cette faculté. Le conseil de l'intelligence. Par la faculté de son intelligence, l'homme, il peut penser, il peut décider et ensuite agir. Et son action représente directement ce qu'il est. Et c'est pourquoi faire attention à ce que nous pensons. Parce que si on pense n'importe quoi, eh bien, des attitudes, des actes vont en découler. Obligatoirement, une personne qui veut se protéger ne va pas ouvrir ses pensées. Hein, elle va pas exposer ses pensées à l'opposition. Elle va, pour pas affronter l'opposition, elle va faire quoi? Ben, elle va entourer ses pensées avec une forteresse, n'est-ce pas, de raisonnement, toutes sortes de choses. J'ai rencontré des gens formidables qui ont ces forteresses, mais alors, c'est fabuleux. C'était incroyable. Par exemple, j'ai rencontré un vieil homme. J'ai passé 3 jours avec lui et 3 soirs. Un homme âgé qui a travaillé depuis plus de 20 ans sur le livre de Enoch. C'est un chrétien, né de nouveau, un réel chrétien. Mais il ne veut pas publier toutes les choses qu'il a trouvées. Il a trouvé des très bonnes choses. Il m'a donné ce qu'il a fait et c'est très bon. Il y a des très très bonnes choses dedans. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas le publier? Son raisonnement, la forteresse qu'il a construite, c'est « Les gens de cette génération ne méritent pas de recevoir ce trésor. » Voilà. C'est son raisonnement. Son raisonnement, il se protège derrière cette forteresse parce qu'il ne veut pas que ce qu'il a fait pendant 20 ans rencontre de l'opposition. Ça le blesserait trop. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Ça le blesserait trop. Et je comprends très bien cet homme. Il a déjà été blessé par le passé, dans toutes sortes de situations religieuses. Et alors, c'est un homme qui souffre. Et je le comprends, mais bon, voilà. Alors, il décrète, cette génération est trop bête pour comprendre ces choses. C'est pas le seul religieux qui pense ça, hein, puisque ce livre a été tenu caché. Le mot apocryphe signifie tenu caché. Ce livre a été caché pendant des millénaires. Parce que, justement, les érudits, les choses de la foi, disaient « les gens sont trop bêtes pour comprendre ça ». C'est peut-être vrai, mais enfin bon, quand même, moi je pense que nous sommes dans le temps où la connaissance augmente et les choses doivent venir à la lumière, hein? Je le crois de tout mon cœur. Et puis tant pis, moi je ne veux pas me cacher derrière une forteresse pour me protéger si je suis attaqué, parce que l'autre jour je voyais un pasteur américain me dire « Ah, j'ai été sur ton site, j'ai vu tu parles de Enoch. » J'ai dit oui, bon, je bâchais parce que si je continuais là-dessus, je voyais qu'il ne croit pas, quoi, il se fiche de moi. Mais moi, je sais qu'il n'y a pas que lui qui va sur le site. Hein. La plupart des gens qui viennent sur le site, des milliers, Eric me dit, puisque c'est lui qui s'en occupe, c'est parce qu'il cherche des choses au sujet d'Enoch. Et comme quand on tape Enoch, c'est sur nous qu'on tombe. Alléluia. Gloire à Dieu. Après, ils peuvent entendre les autres choses plus simples sur le salut, la guérison, la délivrance et toutes ces choses. Cet homme, il s'est enfermé dans la forteresse de ses raisonnements. Et il est là, dans son salon, et puis il pleure de temps en temps, il pleure. La plupart des incroyants font la même démarche. Ils se cachent derrière la forteresse de leur raisonnement afin de ne pas croire. Alors, ils vont vous dire, par exemple, « Oui, mais moi, je connais des chrétiens qui se conduisent mal, alors moi, je ne peux pas croire. » Voilà. Oui, c'est un raisonnement un peu bébête, mais c'est comme ça. Hein. Ou alors, ceux qui travaillent beaucoup, parce que vous avez des gens qui travaillent, hein, puis il y en a d'autres, non. Vous vous rappelez du frère qui nous disait « Bon, je vais vous laisser, parce que moi, demain, je travaille. » L'air de dire « Non, fichez rien du tout, c'était rigolo. » Lui, il travaille. Alors, bon, les gens qui travaillent, en général, ils se cachent derrière ce raisonnement-là. Je n'ai pas le temps de lire la Bible. Je n'ai pas le temps d'écouter les prédications. Je n'ai pas le temps de méditer. Je n'ai pas le temps. Je travaille, vous comprenez, moi. Dieu doit détruire ses forteresses, ses faux raisonnements, ses forteresses de raisonnement. Dieu doit détruire ça parce que ces gens sont prisonniers là-dedans. Des milliards de gens se trouvent derrière des lignes défensives comme ça, et se font du mal à eux-mêmes. Ils sont incapables de sortir de là pour aller dans la glorieuse liberté que connaissent les véritables enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, seule l'autorité de Dieu peut libérer ces gens de leur pensée captive derrière leur raisonnement. Et seule l'autorité de Dieu peut leur permettre d'obéir à Jésus-Christ. Et si un chrétien veut connaître l'autorité véritablement de Dieu, qu'est-ce que c'est que l'autorité de Dieu, il doit rejeter tous ses propres raisonnements. Vos raisonnements ne seront détruits que lorsque vous reconnaîtrez que Dieu est Dieu. Comme c'est écrit dans Romains 9, lisez Romains 9, je vous en supplie. Lisez et méditez Romains 9. Et là, vous allez voir, Dieu est Dieu. Allez lire Romains 9 quand vous rentrez chez vous, là. Lisez Romains 9. Reconnaissez une bonne fois pour toutes que Dieu est Dieu. C'est seulement à ce moment-là que les forteresses de Satan vont être détruites parce que c'est des forteresses démoniaques. Vos pensées ne pourront plus, à partir de là, quand vous reconnaîtrez que Dieu est Dieu, elles ne pourront plus être recapturées de nouveau, parce que c'est Jésus qui s'en sera rendu maître. Et Jésus ne lâche pas le morceau. Et vous pourrez enfin obéir de tout votre cœur aux paroles de Dieu que vous lisez dans les Écritures. Sinon, vous ne pourrez pas. Vous vous donnerez, oui, mais ça c'était pour le temps des apôtres. Oui, mais maintenant c'est plus vivable. Oui, mais maintenant c'est différent. Hein? C'est des raisonnements. Mes frères et sœurs, ce n'est que quand vos pensées auront été recapturées par Jésus-Christ que vous pourrez vraiment obéir à Jésus-Christ. Rien n'est plus simple pour savoir si quelqu'un a rencontré l'autorité de Dieu ou pas. Observez-le, écoutez-le. Vous allez connaître ses pensées et ses raisonnements. Quand une personne a vraiment rencontré l'autorité de Dieu, sa seigneurie, parce qu'il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, quand vraiment il était face à la seigneurie de Jésus-Christ, sa langue ne s'autorise plus à remuer librement, à dire n'importe quoi, ses raisonnements ne vont plus s'exprimer de façon aussi insouciante en face de la majesté de Dieu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont nés de nouveau, mais leurs pensées n'ont pas été recapturées par Dieu. Ils les gardent toujours derrière leur forteresse. Et partout où ils vont, ils cherchent à améliorer les choses par la chair, pour ne pas dire que partout où ils vont, ils jugent tout, et il n'y a rien qui est assez sain pour eux. Eux, ils trouvent qu'ils sont super, mais les autres, non, je ne supporte pas ci, je ne supporte pas ça, et comme ci, et comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et cette sorte de personne n'a jamais mis ses pensées sous l'autorité de Jésus. Il n'a pas encore livré le domaine de ses pensées à la seigneurie de Jésus. Et ses raisonnements se développent sans cesse à essayer d'arrêter de penser. Sans cesse, de façon exponentielle. Ça me rappelle aussi un bon ami. Exponentielle. Jésus doit faire en chacun de nous une œuvre de réforme, mes frères et sœurs, pour que on en arrive à la paix de l'âme. Il n'y a pas de paix, il n'y a que angoisse dans ce siphon de pensée continuelle, exponentielle et de raisonnement humain. Parce qu'il faut que nos pensées puissent être reconquises par Jésus, par le Seigneur. Il le faut. C'est typique de notre époque, des chrétiens laodicéens, vous savez, de l'Apocalypse 3. C'est typique de notre époque. Ils agissent comme s'il y avait deux êtres omniscients, Dieu et eux, pour ne pas dire eux et Dieu. J'ai besoin de rien. Mais ce que tu dis, on n'en a pas besoin. Mais je sais. Moi, je prêche le plein évangile. Moi, je sais ce que c'est que les sectonnaires. C'est typiquement laodicéen. Moi, je sais, laodicéen. Apocalypse 3, 17, je sais. Ils se croient être formidables, riches spirituellement, mais ils ne savent pas qu'en fait, ils sont pauvres, aveugles et nus, parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est l'autorité de Dieu. Ils se rassurent, ils rassurent leur conscience, avec des lois rigides qu'ils s'imposent, déjà du temps de l'apôtre Paul. Ne touche pas ci, ne bois pas ça, ne goûte pas comme ça. Ça flatte leur ego. Ils sont sûrs qu'ils sont meilleurs que les autres. Ça flatte la pensée qu'ils ont d'eux-mêmes par rapport aux autres, mais par rapport à Dieu. Quand on regarde les exigences de Dieu, c'est autre chose. Et ils veulent ignorer l'amour qu'ils doivent aux autres, parce que ça, c'est une dette qu'ils ont envers les autres. Mais ça, cette dette-là, ils auront jusqu'à vous dire, il ne faut pas saluer, n'est-ce pas, celui qui... C'est terrible. Une personne qui n'a pas donné ses pensées à la seigneurie de Jésus-Christ est contre une foule de versets bibliques. Je vous ai dit de lire Romains 9, je vais vous dire encore de lire tout l'évangile de Matthieu, là, pendant les fêtes. Tout l'évangile de Matthieu, et puis vous allez prendre un stylo, puis vous allez souligner en rouge les 51 ordres inconditionnels de Jésus. Les 51 exigences absolues de Jésus dans l'évangile de Matthieu. On n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Ces 51 ordres ne concernent pas la longueur de vos ongles, ni la couleur du vin que vous buvez à la Sainte-Seine. Ce n'est pas des broutilles, pardon. Ce sont 51 ordres formels de savoir-vivre avec votre prochain. Parce que dans la mesure où vous avez une façon correcte de vivre avec votre prochain, vous avez une relation correcte avec Dieu, sinon rien. C'est dans la même mesure. La plus grande partie de ces 51 ordres sont interdits de séjour dans la forteresse des pensées personnelles des chrétiens laodicéens. Interdits de séjour. Et pour justifier ça, ils ont des raisonnements. Et ils ont tous raison. Quand vous les écoutez, vous dites, oui, ben oui, il a raison. Ah ben oui, que tu veux ma foi. Dans un tel cas, c'est vrai que nous devons donner à Jésus-Christ la seigneurie, l'autorité sur nos pensées. Je vous parle des 51 ordres qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, mais je ne parle même pas des centaines d'autres ordonnances qu'on trouve jusqu'à Apocalypse 22-21. Lisez déjà ceux de Matthieu. Et frères et sœurs, nous sommes amis de Jésus si nous faisons ce qu'il commande. La relation ami-Jésus et moi, ce n'est pas la relation ami-moi et toi. Hein. Moi, je ne peux pas aller vers Jean et dire « t'es mon ami si tu fais ce que je te commande ». Pourquoi ? Parce que Jésus est le Seigneur. Dieu est Dieu. Il peut dire ça, lui. Moi, pas. Vous non plus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Sinon, vous n'êtes pas mes amis. Vous êtes quoi alors? Ben, des serviteurs. Ouais. Des serviteurs de Dieu à plein temps même. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que Jésus voudrait. Il voudrait être votre ami. Paul, c'était un homme. C'était un vrai. Intelligent, capable, sage, apte à raisonner, élevé au pied de Gamaliel, donc avec une intelligence remarquable. C'était des gens très pointus, formidables, zélés, servaient Dieu, c'est un serviteur de Dieu, avec beaucoup d'enthousiasme, de zèle. Et en deux secondes, toutes ses intentions, toutes ses façons d'agir, ses capacités ont été dissoutes. En deux secondes, Jésus le fout par terre. Et alors, résultat, parce qu'il y a un résultat, ce n'est pas simplement qu'il a fait une expérience, il y a eu un résultat, il a abandonné ce qu'il devait accomplir à Damas, c'est-à-dire les meurtres et toutes ces choses. Pourtant, il tuait au nom de Dieu. Il était sûr que c'était bien, mais il a abandonné. Il a même oublié les raisons pour lesquelles il faisait ça. Et il a marché en nouveauté de vie selon les ordres de Jésus. Maintenant, frères et sœurs, nous devons être humbles. Vous et moi, on doit être humbles. Il nous faut reconnaître que beaucoup de chrétiens changent de direction comme l'apôtre Paul. On pourrait penser, voilà, ils ont changé de direction. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ont trouvé un obstacle sur leur chemin. Ils n'ont pas trouvé la seigneurie de Jésus, ils ont trouvé un obstacle, une difficulté. Alors ils essaient de s'en sortir par eux-mêmes et ils justifient ça avec des versets bibliques. Mais quoi qu'ils fassent, ils sont toujours et encore en train de marcher selon leurs propres idées. Ils sont entrés en eux-mêmes à un certain moment, dans un certain domaine de leur vie, mais ils n'ont pas été frappés quant à leur raisonnement, quant à leur pensée. À leur pensée. Le chemin de Damas est obstrué, c'est-à-dire le mal qu'ils étaient en train de faire, voilà, qui a un problème, eh bien, ok, ils retournent à Jérusalem, ou à Tarse, hein, soit il était de Tarse. Mais là, Paul, ça n'a pas été du tout ça. Paul, une fois qu'il était frappé, il a tout perdu, même la vue, il a tout perdu. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez? Il s'est placé sous la seigneurie de Jésus-Christ. Et Dieu lui a présenté, voilà, va trouver telle et telle personne, parce que le Seigneur, il a des délégués. Voilà quelqu'un qui a eu ses pensées conquises par Jésus-Christ. Voilà un homme qui est disposé à obéir de tout son cœur. Il a tout perdu. Avant ce jour-là, Paul, c'était un meneur. Mais là, il n'y a plus d'opinion personnelle. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et ça, mes frères et sœurs, c'est la première preuve qu'une personne a réellement rencontré l'autorité de Dieu. Elle n'a plus d'opinion personnelle. Mes frères et sœurs, ayons l'honnêteté suffisante pour demander à Dieu de nous subjuguer par sa lumière. De nous subjuguer par sa lumière. Pensez-y, pensez à ça. Rendez-vous compte. Il y a un homme dans la Bible qui a été rejeté par Dieu, vous savez pourquoi? Parce qu'il avait épargné les meilleures bêtes des troupeaux pour les offrir en sacrifice à Dieu. Ben, Dieu l'a rejeté. Mais aux yeux des gens, c'était très louable ce qu'il avait fait. Oh, il a pris les plus belles bêtes pour les offrir à Dieu. Mais pourquoi Dieu le rejette? Enfin, quand même. Parce que son geste était l'effet d'une décision personnelle qui allait à l'encontre de ce que Dieu avait dit. Il avait décidé de plaire à Dieu de cette manière. Ben, ce n'est pas comme ça que ça marche. Son geste paraissait noble. Ce geste faisait la preuve de son zèle pour Dieu devant les gens pas très éclairés. Mais en réalité, on va lire 1 Samuel 15. Écoutez bien. Samuel, donc le prophète, dit à Saül, « C'est moi que le Seigneur a envoyé pour te conférer l'onction. » Afin que tu sois roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit le Seigneur. Vous voyez, quand on nous a conféré l'onction, c'est pour un ministère, c'est pour une fonction. Hein. L'onction, ce n'est pas quelque chose qui se balade et qui nous tombe dessus de temps en temps, comme si à gauche, à droite. Non. L'onction, c'est pour une fonction. Hein. Toujours, vous regardez dans la Bible, c'est toujours comme ça. Maintenant, il y a une mode, mais on ne peut pas être bibliquement d'accord avec cette mode. Ainsi parle le Seigneur Yahvé des armées. J'ai décidé de faire rendre des comptes à Amalek pour ce qu'il a fait à Israël quand il s'est mis sur son chemin, tandis que celui-ci montait d'Égypte. Va maintenant, attaque Amalek et frappe d'anathème tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas. Tu mettras à mort hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs, moutons, chèvres, chameaux et ânes. Saül battit le rappel des troupes et les passa en revue à Telaïm. Il y avait 200 fantassins de Juda, 10 000 hommes. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans l'oued. Il dit aux Caïnites, « Allez, écartez-vous, descendez d'Amalek, afin que je, ne vous fasse pas disparaître avec lui, car vous avez agi avec fidélité envers tous les Israélites, lorsqu'ils sont montés d'Égypte. » Les Caïnites s'écartèrent donc d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'aux abords de Séour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il frappa d'anathème tout le peuple, le passa au fil de l'épée, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag ainsi que ce qu'il avait de meilleur dans le petit bétail et le gros bétail, les bêtes de seconde portée, les jeunes béliers et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le frapper tout cela d'anathème. Ils ne frappèrent d'anathème que tout ce qui était méprisable et chétif. La parole du Seigneur parvint à Samuel. Je regrette d'avoir investi Saül de la royauté, car il s'est détourné de moi, il n'a pas exécuté mes paroles. Samuel en fut fâché. Il cria vers le Seigneur toute la nuit. Samuel se leva de bon matin pour aller trouver Saül. On lui dit, « Saül est allé au Carmel. Il s'est érigé un monument, puis il est redescendu au Gilgal. » Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni du Seigneur, j'ai exécuté la parole du Seigneur. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc ces bêlements de petits bétail qui parviennent à mes oreilles et ces mugissements de gros bétail que j'entends ?» Saül répondit, « On les a amenés de chez les Amalécites. Le peuple a épargné le meilleur du petit bétail et du gros bétail afin de le sacrifier au Seigneur ton Dieu. Le reste, nous l'avons frappé d'anathème. » Samuel dit à Saül, « Assez ! Je vais t'annoncer ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, n'est-ce pas lorsque tu étais petit à tes propres yeux que tu es devenu le chef des tribus d'Israël et que le Seigneur t'a conféré l'onction pour que tu sois roi sur Israël? Le Seigneur t'avait envoyé en disant, va et frappe d'anathème les pêcheurs d'Amalécite, tu leur feras la guerre jusqu'à leur extermination. Pourquoi n'as-tu pas écouté le Seigneur? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui déplaisait au Seigneur? Saül répondit à Samuel, mais j'ai bien écouté le Seigneur, j'ai suivi le chemin sur lequel le Seigneur m'avait envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, j'ai frappé Amalek d'anathème, mais le peuple a pris le butin sur le butin du petit bétail et du gros bétail comme prémisse de l'anathème, afin de les sacrifier au Seigneur ton Dieu, au Gilgal. Samuel dit, le Seigneur prend-il autant plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance de celui qui écoute le Seigneur? Écoutez vaut mieux que les sacrifices. Prêtez attention, vaut mieux que la graisse des béliers. La rébellion vaut le péché de divination, et la résistance vaut le recours illicite au théraphim. Puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, il te rejette aussi. Tu ne seras plus roi. Ben, dis-ne pas. Hein. Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez, écoutez. Écoutez, ce que Dieu dit, ça a plus de valeur que de faire des sacrifices à Dieu. Écoutez, ce que Dieu dit, ça a plus de valeur que de faire des sacrifices à Dieu. Et puis, ne pas écouter ce que Dieu dit, c'est se rendre aussi coupable que si vous alliez trouver Madame Irma, une cartomancienne, une diseuse de bonne aventure, ou quelqu'un qui évoque les morts. Ne pas écouter. Ne pas écouter quoi ? Dieu. La Bible. Saül épargna les Amalécites ainsi que les meilleures brebis. Qu'est-ce qui est arrivé plus tard ? Plus tard, Saül a été tué par un Amalécite. Mes frères et sœurs, tous ceux qui épargnent l'Amalécite qui représente, c'est-à-dire les pensées sans amour, les pensées sans foi, eh bien, tous ceux qui épargnent ça dans leur forteresse, qui gardent ça dans leur forteresse, ils seront tués par un Amalécite, c'est-à-dire par une pensée sans amour, par une pensée sans foi. C'est comme ça. On récolte ce qu'on sème, c'est comme ça. L'arme spirituelle que vous devez employer pour casser les forteresses derrière lesquelles sont vos pensées, derrière lesquelles elles sont tenues captives, la seule arme spirituelle, c'est l'humilité. Sans cette humilité, Dieu cassera jamais la forteresse. Vous pouvez dire, mais Dieu n'a qu'à la casser. Non. L'humilité. Écoutez d'abord. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Dieu fait grâce aux humbles. Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu ne fait grâce que aux humbles. Alors, qu'est-ce que je devrais vous enseigner? Juste avant que nous entrions dans 2010. Qu'il y aura la paix. Que les choses vont s'arranger. Que la nature va se calmer. Que Dieu est content de son Église. Qu'est-ce que je dois vous dire? Désolé, je ne peux pas. Je ne suis pas un faux prophète. Je ne peux pas vous dire ça. Je ne peux pas vous dire ça. Je n'ai pas le droit de vous dire ça. Je vais vous dire ce qui va arriver. Il va y avoir des grands réveils religieux hybrides, basés sur le bruit et l'émotion. Charnel. Les faux prophètes vont se multiplier et multiplier la grosseur de leur compte en banque. La nature va entrer dans des contractions terribles dans des endroits inattendus. Il va y avoir des choses qui vont terrifier le monde, des choses qui vont apparaître dans le ciel qui vont terrifier le monde. Les morts vont parler de plus en plus aux vivants. Des gens vont être dérangés par ça, poussés au suicide. Des maladies anciennes vont ressurgir. Des crimes sans raison vont être commis de plus en plus. Les chrétiens seront persécutés en Europe. Est-ce que je dois continuer la liste? Non. Non. Ce que je dois dire, c'est placez-vous sous la puissante main de Dieu humblement. Voilà ce que je dois dire. Parce que vous ne devez pas venir vous placer sous la main de Dieu humblement parce que vous avez peur de ce qui va arriver. Vous devez vous placer sous la main humblement sous la main de Dieu par amour pour Dieu. Mais ces choses vont arriver. Reconnaissez la véritable autorité. Les branhamistes n'ont pas la véritable autorité. Pas plus que les pentecôtistes, pas plus que les baptistes, pas plus que... Non, Branham avait la véritable autorité. Quelques hommes de Dieu ont encore l'autorité. Reconnaissez l'autorité qui vient de Dieu. Que celui qui veut être grand se fasse petit. Dieu est Dieu. Vous ne comprendrez jamais que Dieu est Dieu tant que vous ne serez pas sous la main de Dieu d'une façon volontaire et humble. Jamais. Écoutez bien cette histoire. Saül, il est mort par la main d'un Amalécite. Vous connaissez l'histoire, comment ça s'est passé? Et ce jeune homme, qui a aidé Saül à se suicider en fait, il a couru vers David pour recevoir un remerciement de la part de David. « Je t'ai débarrassé de ton pire ennemi. » Croyez avoir un... David le regarda et dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur le oint de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et il ordonna que le jeune homme, que le jeune messager soit tué sur le champ. Pourtant, ça devait être fait. Pourtant, il devait y avoir un Amalécite qui tue Saül. Ça peut sembler aussi étrange que lorsque Dieu endurcit le cœur de Pharaon et en même temps envoie Moïse pour dire à Pharaon « Laisse partir mon peuple ». Ça paraît un contresens, ça paraît bizarre, ça paraît injuste. Seuls ceux qui sont soumis sous l'autorité de Jésus-Christ peuvent comprendre ces choses-là. Seuls ceux qui sont sous la seigneurie de Jésus peuvent comprendre ça. Et donc, seuls ceux qui sont sous la seigneurie de Jésus peuvent exercer l'autorité véritable. Parce qu'ils sont eux-mêmes soumis. La communauté, selon Actes 2 et 4, elle existe à cause de l'obéissance. Elle n'existe pas parce que c'est bonnard. Si nous voulons que la communauté de Dieu soit encore bénie, il faut d'abord que chacun de nous, nous nous soumettions à l'autorité de Dieu. Et je ne vous supplie pas de m'être soumis à moi. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. parce que je ne suis qu'un homme. Écoutez, écoutez ça. David pouvait tuer Saül plusieurs fois, il a pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait pas ne pas être soumis à l'onction qui avait été mise sur Saül. Il pouvait ne pas être soumis à Saül en tant qu'homme, parce que Saül était un pécheur, mais il ne pouvait pas être dégagé de l'acte que Dieu avait posé sur l'homme. Par contre, David se plaçait donc justement sous l'onction qui avait été faite à Saül. Un chrétien, un disciple de Jésus-Christ, ne doit jamais se soumettre à un homme. Jamais. Jamais. Vous n'avez pas à suivre un homme, ni Branham, ni Osborne, ni Janton, ni personne. Mais un disciple de Jésus-Christ doit se soumettre à l'onction qui a été placée sur l'homme qui a été envoyé par Dieu. Jusqu'à lui. L'homme, dans l'Ancien Testament, était pécheur. L'homme, dans la Nouvelle Alliance, est toujours pécheur, mais gracié, couvert par le sang de Jésus-Christ. Ça signifie quoi ? Ça signifie que l'Amalécite a commis une faute grave, digne de mort, parce qu'il a tué Saül, mais que s'il avait commis cette erreur-là, sous la Nouvelle Alliance, son péché aurait été encore plus grave. Parce que Saül n'aurait pas seulement été un pécheur, mais il aurait été un pécheur gracié. Et quelqu'un qui ne reconnaît pas, qui ne veut pas entrer dans la soumission correcte, eh bien, il ne trouvera nulle part. Il ira d'endroit à endroit, à endroit, à endroit, et changera tout le temps parce qu'il ne reconnaîtra jamais l'autorité. Pourquoi ? À cause de ses raisonnements et de cette forteresse de raisonnement qu'il a construit autour de ses pensées. Comprenez-vous cela ? Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Sa conception de la justice est très différente de la nôtre. Vous n'avez qu'à voir que l'histoire de Pharaon ou de cet Amalécite, ou de celui qui a touché l'Arche de l'Alliance, ou de toutes ces autres choses, ou de Judas, tout ça. David reconnaissait l'onction qui était sur Saül, et il a accepté le fait que Saül était le oint du Seigneur. Et c'est pourquoi il n'a jamais porté la main sur Saül, contre Saül, et il n'a jamais rien fait de mal. Alors, c'est vrai que Saül avait mal agi, et que Dieu l'avait rejeté, mais ça ne concernait que Dieu et Saül. Vous comprenez, mes frères et sœurs ? Votre problème avec machin ou machine, ça ne vous concerne pas. Parce que la personne avec qui vous avez un problème a été mise sous l'onction du sang de Jésus-Christ pour la purification de ses péchés, et ce qu'il fait de mal ne vous concerne pas. Et même si Dieu l'a rejeté, ça ne vous concerne pas. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui se mêle des affaires des autres est comme un meurtrier. Waouh ! Michel, qu'est-ce que tu nous dis là ?
Ben, excusez-moi, la prochaine fois je prêcherai sur Barnabé. Ou... Non, pas Barnabé. Bartimée.
Barnabé, c'est Fernandel. La responsabilité de David envers Dieu, c'était de rester soumis à loin du Seigneur. La responsabilité de David. Notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être soumis à l'autorité que Dieu nous a envoyée. Point. Et ce n'est pas vous qui choisissez, c'est Dieu qui vous envoie. C'est Dieu qui envoie. Vous n'avez rien choisi. Vous n'avez même pas choisi Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi. Vous n'avez rien choisi. Dieu est Dieu, vous n'avez rien fait. Rien. Rien. C'est Dieu qui vous a trouvé, c'est Dieu qui vous a cherché, c'est Dieu qui a su comment faire pour faire les choses. Vous n'avez rien fait du tout, vous êtes qu'un minable et vous êtes là en train de contester l'onction. Vous êtes en danger. Voilà ce que je dois vous dire. Voilà ce que je dois vous dire. Impossible à comprendre quand on a des pensées qui sont cachées derrière des forteresses de raisonnement. Impossible d'admettre une chose pareille. Impossible. Parce que les pensées ne sont pas sanctifiées. En Jésus, elles sont sanctifiées dans une forteresse de raisonnement humain. Alors que Dieu nous vienne en aide, mes frères et sœurs, pour que nous puissions marcher fidèlement selon la parole écrite. Je ne demande pas de prophétie. Je demande simplement que nous écoutions ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si Dieu veut nous parler par une prophétie, il peut. Mais avant de lui demander de nous parler par prophétie, veillons déjà bien à savoir si nous obéissons à tout ce qu'il a déjà dit. Amen. 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 Ça, c'est important. Ça, c'est important. Mes frères et sœurs, ayons la crainte de Dieu. Dieu est Dieu. Ne se moque pas de Dieu. Je ne pouvais pas terminer l'année 2009 avec une petite prédication gentille pour vous chatouiller les ailes, parce que Dieu m'a pas oint de cette manière-là. Ce que j'ai à dire, je vous l'ai dit, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen, amen. Jésus, sois béni, mon Dieu. Merci Seigneur de donner à chacun les éclaircissements dont il a besoin, alors qu'il sera en train de lire l'évangile de Matthieu pour trouver les 51 commandements, ordre impératif. Seigneur, je te prie qu'ils soient éclairés quand ils liront aussi toutes ces choses au sujet de l'onction véritable, ce que la Bible dit de l'onction, pas ce que les bouquins modernes racontent, mais ce que la Bible dit de l'onction. Merci Seigneur de permettre que chacun revienne à sa Bible et se mette en ordre avec ce que tu as dit. Nous voyons dans les Écritures que des choses ont des fois mis du temps à s'accomplir, mais tout ce que tu as dit s'est toujours accompli. Et Seigneur, nous arrivons à la fin d'une période, depuis 1977, maintenant nous le savons, les nations s'est terminée, c'est plus que des soubresauts, c'est plus que des horreurs, de la corruption. Te prions Seigneur Jésus que tu reviennes bientôt chercher ton Église, ta véritable petite épouse. Seigneur Jésus, permets que ceux qui sont là en train d'écouter à la radio ou sur Internet, permets qu'ils puissent se rendre compte de cela et qu'ils puissent se mettre à te suivre, toi, à porter ton nom et non pas le nom de leur religion. Qu'ils puissent porter ton nom avec fierté, non pas le nom d'un homme, d'une secte, d'un machin, Merci Seigneur de donner un éclairage à chacun, de permettre que cette année qui se termine bien dans la paix pour chacun, chacune, que tout se passe bien en famille, que ça soit sympathique bien, mais que au fond des cœurs, il y ait du sérieux devant toi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen.